voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Petitot rencontre Emmanuel Todd. Ce soir, l'origine d'un système familial.
Bonsoir Emmanuel Todd, merci de nous recevoir chez vous. Alors il y a un vrai désarroi des journalistes lorsque ces derniers désirent vous présenter, puisque vous êtes tout à la fois historien, démographe, anthropologue, sociologue, essayiste, polémiste, mais aussi prophète certifié, pour reprendre une de vos expressions, puisqu'on vous doit quelques prédictions notables, telles que l'effondrement du système soviétique, l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, l'affaiblissement du système américain, la crise de 2008, les révolutions du monde arabe. Mais au-delà de la fonction de prophète, vous, vous préférez souvent vous qualifier de chercheur. Et vous êtes avant tout et surtout un intellectuel qui a fondé la quasi-totalité de ses recherches sur les systèmes familiaux et sur les territoires. Les conséquences que ceux-ci ont sur nos organisations politiques et économiques. Eh bien, nous aussi, nous allons tenter de découvrir votre système familial, Emmanuel Todd, les territoires géographiques et intellectuels qui ont jalonné votre vie et les conséquences qu'ils ont eues sur l'homme que vous êtes. Aussi, pour débuter cette série d'entretiens, Emmanuel Todd, il convient de vous poser cette simple question. Quel est votre système familial ?
C'est toujours la même chose. C'est un type qui travaille ou qui consacre tellement d'énergie à mettre en typologie des systèmes familiaux sera inévitablement incapable de dire d'où il vient. Il sortira d'un univers mêlé, contradictoire, où plusieurs traditions sont mélangées. Et l'une des interprétations possibles de son existence sera de dire « bah finalement, tout ce fromage sur la famille n'est qu'une tentative pour mettre de l'ordre dans un désordre familial initial ». Donc je ne sais pas d'où je viens. Je peux donner des détails, on peut élaborer. Vous voulez que je...
Oh bon, on va quand même tenter de le faire, parce que c'est marrant, parce qu'à l'âge de 10 ans, il me semble que vous êtes quand même attelé à l'élaboration d'un arbre généalogique.
Oui, mais vous savez, c'est classique, hein. Les généalogistes vous disent toujours, bah, il y a un âge auquel un certain type d'enfants font des généalogies. Alors moi, ça m'a donné ma... C'était bon, j'étais en 6e, je crois, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Qui n'était pas du tout à l'époque l'espèce de boîte élitiste que c'est devenu. C'était un vaste foutoir, il y avait une moitié d'élèves étrangers, de toutes les nationalités européennes, quelques Américains aussi. Puis j'étais en permanence, et donc j'avais rien à foutre, et je faisais mon arbre généalogique. Et un pion, qui devait être étudiant en lettres... Regardez ce que je faisais, regarde l'arbre généalogique, et puis il regarde, et puis il me dit, vous êtes le petit-fils de Paul Nizan? Et je dis, ouais, monsieur. Mais, en fait, pour moi, à l'époque, Paul Nizan, c'était rien du tout. Je savais que c'était le nom de mon grand-père. En vérité, pour moi, c'était quelqu'un que je n'avais jamais connu. Il est mort à 35 ans en 1940.
Que vous pouvez tout rappeler monde... à nos auditeurs, rappeler qui était Paul Nizan, même évidemment.
Oui, c'était un intellectuel communiste, copain de Sartre, qui était un type prometteur et très connu avant la guerre, et puis qui était enterré, si on peut dire, parce qu'il a quitté le Parti communiste assez brutalement après le pacte germano-soviétique. Et puis après la guerre, le PC l'a copieusement diffamé... Et puis Sartre a pris sa défense avec la réédition d'un de ses livres, ça devait être Aden Arabi ou un truc comme ça. Et donc en mai 68, Nizan est redevenu assez populaire. Mais honnêtement, la tradition familiale, c'est plutôt d'en rire. C'est-à-dire, de toute façon, moi j'étais persuadé, quand il l'appelait Polive, quand j'étais petit, j'étais persuadé que ça s'écrivait P-O-L-I-V-E. J'avais une sorte de confusion avec le savon palmolive dans mon esprit. Donc, pour moi, c'était ça, Nizan. Mais c'est le premier moment de ma vie où j'ai eu le sentiment de sortir de quelque part, en fait. Parce que à l'époque, la famille était juste, donc ça devait être le tout début des années 60. Donc c'était, on est très peu de temps après la guerre. Tous les hommes valides, était mort ou étudiant, donc la famille était extrêmement appauvrie, en fait. C'était venant d'une famille qui avait été assez bourgeoise et qui n'était pas bien économiquement. Mais là, j'ai le sentiment de... voilà, quelle était la question ?
Paul Nizan, c'est votre grand-père du côté maternel ?
Oui, tout à fait, oui.
Votre maman, elle est publicitaire, me semble-t-il ?
Elle est décédée. Ma mère était une grande publicitaire, donc c'était un mélange de fantaisie, Donc elle a choisi une carrière de publicitaire. Donc pour moi, dans la vie maintenant, alors ça, on avance, donc il n'y a plus beaucoup de produits pour lesquels elle fait de la pub, mais il y a une époque, pendant le gros de mon existence, il y avait les produits pour lesquels ma mère avait fait de la pub et les autres, non. Donc, et je garde un attachement aux biscottes Eudebert pour ce genre de raisons. Mais c'était aussi très clairement dans son esprit, c'est une femme extrêmement intelligente. C'était aussi, elle savait très bien qu'elle était la fille de Nizan. Et Sartre avait été témoin à son mariage, Raymond Aron lui avait fait des lettres de recommandation quand elle cherchait un job en Angleterre, quand elle était étudiante. Contrairement à moi, elle savait très bien qui elle était en termes. Mais elle avait choisi le camp de la fantaisie. Ce qui la faisait marrer, c'était de faire des films de pub, d'inventer des slogans publicitaires, avec quelque chose de curieux qu'on imagine peu chez les publicitaires, en tout cas de cette génération, c'est qu'elle arrivait elle-même, la première étape de son travail était de se convaincre elle-même de ce que les produits qu'elle vendait étaient formidables.
Pour autant, je vous ai souvent lu en train de rendre hommage aux publicitaires en disant qu'ils permettaient de connaître et de mieux comprendre la société.
C'est très clair que quand on vit dans un milieu de gauche, un peu traditionnel ou gauchiste, etc., il y a cette vision des publicitaires comme méchants, manipulateurs. Et puis con en plus, ou intéressé par l'argent, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Mais quand on a une mère publicitaire, ben de fait, on a vu l'intérieur de la machine, et le premier truc qu'on voit, c'est que les publicitaires sont des gens qui prennent les consommateurs au sérieux, et qui cherchent à les comprendre, peut-être ensuite un peu pour les manipuler, ou pour parler à leur inconscient. Mais au départ, le point de départ est... Et plutôt du respect. Puis c'est très instructif. Et puis c'est, pour moi, l'activité des publicitaires, c'est de la sociologie appliquée. Si vous voulez, moi, tout petit, j'ai vu comment avait été lancée la lessive Skip. Vous voyez? Ma mère se définissait elle-même comme peut-être elle se vantait, comme la reine des lessives. Elle me disait, les lessives, c'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'elles sont toutes pareilles. Donc en fait, les lessives étaient positionnées par rapport non pas du tout à leur contenu intrinsèque de lessive, enfin toutes les lessives lavent en général, mais par rapport à la cible socioculturelle qui était visée. Donc c'était vraiment, non, ça vraiment, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et puis d'ailleurs, je pense que j'ai en moi une volonté de parler simplement et clairement, qui vient de plein de traditions de la famille, mais qui, dans le cas de ma mère, s'est incarnée... dans le métier de publicitaire, et puis elle m'a passé une partie de ce souci de simplicité.
Très bien. Et du côté de votre père, c'est Olivier Todd, c'est un journaliste. Là aussi, on est dans de la sociologie appliquée.
Oui, mais ça dépend. Vous me mettez à quel âge pour percevoir tout ça? Parce que quand j'étais gamin, moi, mon père, il était prof d'anglais. Et même, il était prof d'anglais pendant un an au lycée international où je suis arrivé. C'était l'un des pires moments de mon existence parce que j'étais une daube en anglais. Et donc, mon père avait par ses copains connaissance de mes mauvaises notes avant moi. C'était vraiment un truc assez pénible. Et puis ensuite, il a fait la carrière de journaliste que l'on sait, c'est un très, très, très grand journaliste, et puis écrivain, et puis il écrit de très grandes biographies de Brel, de Camus, de Malraux. Lui est toujours vivant, hein, s'il veut. Voilà. Cela dit, c'est toujours pareil, quand vous étudiez, ça s'apprend, vous voyez. C'est très difficile pour moi de parler de ma famille. J'ai passé ma vie dans l'analyse des structures familiales, donc je me mets à théoriser au milieu. Donc vous voyez, vous êtes l'enfant de deux parents. Mes parents m'ont eu très jeune, hein, ils avaient 22 ans, quelque chose comme ça. Tout le monde était fauché, tout le monde était ruiné. Quand j'étais petit, je vivais chez mes arrière-grands-parents, dans un joli quartier de Saint-Germain-en-Laye, mais dans un appart qui était quand même fondamentalement dégueulasse. Mon père était juste prof certifié d'anglais. Il n'avait pas pu avoir la grecque parce qu'il était bilingue, donc il parlait trop bien anglais pour être agrégé d'anglais. Voilà, c'est l'une des blagues de la famille. Et donc j'étais juste, et puis j'étais avec mes copains qui étaient fils d'instit ou d'ingénieur SNCF. Puis il y avait tous les étrangers du lycée qui eux venaient de plus haut en fait. Mais quelque part, ce qu'il y avait avant dans l'histoire familiale était présent d'une façon mystérieuse. Et quand on remonte, des deux côtés d'ailleurs, du côté de ma mère comme du côté de mon père, on trouve des choses intellectuelles et de très haut niveau. Donc du côté de ma mère, il va y avoir Nizan pour son père. Du côté le plus important pour moi, et pour elle sans doute, c'est-à-dire du côté de sa mère, là on tombe sur une famille bourgeoise, juive, dont les représentants les plus illustres ont été Simon Lévy, grand rabbin de Bordeaux, qui a écrit le premier livre, qu'on peut trouver d'ailleurs maintenant grâce aux techniques modernes, réimprimé de neuf, ce livre sublime intitulé « Moïse, Jésus et Mahomet », que je résume en rigolant quelquefois en disant bon, c'est un livre qui explique qu'il n'y aura jamais de problème entre juifs et chrétiens, si les chrétiens, puisque le judaïsme a tout conçu finalement, avec le christianisme et l'islam sont des religions filles en fait, et que dès que les chrétiens auront admis que Jésus n'est pas le fils de Dieu, il n'y aura plus aucun problème en fait. Voilà. Bon, ça c'est mais du côté de mon et puis il y avait Isaac Strauss qui était le directeur des bals de Napoléon III, qui est mon ancêtre commun avec Lévi-Strauss en fait, pour situer les choses. Donc on tombe sur du super bourgeois, etc. Mais du côté de mon père en fait, c'est pas tellement différent parce que sa mère, elle a vécu en donnant des leçons d'anglais à Paris. Mon père était enfant naturel, il a retrouvé son père qui était un juif autrichien qui avait fui la situation de procréation qui s'annonçait, sans doute. Mais la grand-mère de mon père, elle, avait été rédactrice en chef de Vogue en Angleterre dans les années 20. Alors elle, c'était une homosexuelle de grande envergure, si on peut dire.
C'est elle qui était communiste, Emmanuel Todd aussi.
Ça, c'était la grand-mère.
C'était la grand-mère.
Donc la grand-mère. Donc si vous êtes du côté anglais, vous avez, vous remontez assez loin, vous avez des gens qui viennent du nord de l'Angleterre, du comté ou la ville de Durham. Todd, c'est un nom qui, en dialecte du nord de l'Angleterre et en écossais, veut dire renard, en fait. Donc je m'appelle Renard, en fait. Et donc elle. Bon, elle a couché une fois avec un homme, c'était une erreur, semble-t-il, de son point de vue. Donc elle est tombée enceinte, et puis mon père a écrit tout ça dans ses livres. Mon père se raconte volontiers, hein, quand même, plus que moi, si on peut dire, et par l'écrit. Et alors, comme elle avait le bras long, elle s'est débrouillée pour que ma grand-mère ait des faux papiers, qu'elle soit présentée comme sa nièce. Donc évidemment, elle a fui à Paris. Elle a trouvé la sécurité au Parti communiste. Et puis, elle est mon père, qui est complètement bilingue. Mais c'est quand même la grand-mère qui a été rédactrice en chef de Vogue, qui s'est débrouillée pour que mon père aille faire des études à Cambridge, en Angleterre, et qui a maintenu un lien, en fait. Voilà, donc on tombe sur un monde... assez bourgeois intellectuel dans les deux branches.
Bourgeois, intellectuel, et dans tout ça, Emmanuel Todd, est-ce qu'il y a un rapport à la religion particulier? Le judaïsme, il est pratiqué chez vous?
Ah non, souvent, ça c'est assez mystérieux, hein, parce que, non, en fait, la famille, côté français, le côté juif français de ma famille... ils ont été sur les rythmes de sécularisation normaux. Donc, le fils, la fille du grand rabbin de Bordeaux, qui opérait vers la fin du 19e siècle, a épousé un type qui a laissé des cahiers dans lesquels, qui commence par cette phrase, dans lequel il résumait ses discussions pendant la guerre de 14 avec des curés. Du côté de je ne sais quel fort de Paris, parce qu'il avait été rappelé en tant qu'officier. Et ça commence par moi, Paul S., juif de race et libre penseur, de conviction, un truc dans ce genre-là. J'ai le cahier quelque part. Mais Et puis à la génération d'après, il y a le premier mariage mixte. Et souvent, je fais des blagues, ma blague favorite, mais qui a du sens, je pense, sur le plan anthropologique. Je dis quand même tout ce qui reste de la famille, pour autant que je puisse juger dans mon éducation, c'est un goût immodéré pour la viande de porc à cause des millénaires de privation. Voilà. Mais, par contre, c'est toujours pareil. Je vois bien qu'une certaine inquiétude, dans un contexte sécularisé, dans un contexte d'incroyance absolue. Moi, j'ai été baptisé. Après la guerre, les gens ne se vantaient pas d'être juifs. J'ai fait ma communion solennelle. Je connais très bien le catholicisme aussi. Et c'était moins confortable. Maintenant, tout le monde trouve que c'est super d'être juif. Cette espèce d'illusion indéfiniment répétée dans l'histoire du judaïsme que tout va s'arranger, que tout est arrangé, que les malheurs sont finis. Moi, je suis historien, j'y crois pas trop à ça. Mais il y a, je crois, un fond chez certains, ça va être de l'intérêt pour les questions de la religion. Chez d'autres, ça va être un certain type d'inquiétude. Et honnêtement, on parle de moi à cause de mon travail sur les structures familiales, mais si vous regardez mes bouquins, vous verrez que la religion est un concept absolument central. Dans le livre qui s'appelle « L'invention de l'Europe », il y a énormément d'histoires religieuses. Je connais extrêmement bien le développement théologique du catholicisme, enfin, du christianisme, puis du protestantisme. Et dans le dernier livre, là, il y a beaucoup d'histoires religieuses et en particulier. Alors là, oui, là, je suis allé au plus près. Là, je suis rentré dans la question de l'histoire juive. Vous voyez, ça finit en boucle. C'est fini. C'est assez classique à mon âge, j'imagine.
Alors, on reviendra sur la notion, Emmanuel Todd, d'histoire, mais il y a une autre thèse centrale de votre travail, c'est de dire que les systèmes familiaux sont toujours corrélé à un territoire. Je voulais savoir si, par rapport à votre jeunesse, c'est le cas avec Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, on va le rappeler, c'est 20 km de Paris, c'est à l'ouest, ça a, disons, plutôt une image quelque peu conservatrice, un peu bourgeoise.
Super bourgeoise.
Ouais. C'était comment, Saint-Germain-en-Laye, pour vous, au début des années 60?
Oui, enfin, plus que... Oui, il y a des années, moi je suis de 51, je suis resté à Saint-Germain jusqu'à 58, c'était... Comme je dis, on était dans les bons quartiers, près de la forêt, mais dans un appartement minable. Puis ensuite, c'est arrangé. Donc, mes parents se sont installés d'abord en face de chez mon arrière-grand-mère, et puis à deux rues de là. Je veux dire, si je peux te décrire, c'est ce système familial juif typique de co-résidence temporaire, et puis sans trop d'éloignement, mais aussi avec la possibilité d'aller très loin ensuite. Enfin, Saint-Germain, c'était une ville bourgeoise, il y avait beaucoup de gens de droite, etc. Au moment de la guerre d'Algérie, c'était terrible, parce qu'il y avait pas mal de gens d'extrême droite, et mes parents étaient plutôt militants algériens, et ils étaient au PSU, donc il y avait ça, mais c'était pas, comment dire, il n'y avait pas encore ces phénomènes de zonage socio-culturel qu'on observe maintenant. C'est-à-dire que même une ville comme Saint-Germain-en-Laye, première ville de province autour de Paris, c'est comme un mini Versailles, en fait, c'était ça. Mais il y avait encore de toutes les classes sociales là-bas. Et quand j'ai eu 16 ans et quand le besoin m'a pris d'adhérer au Parti communiste, j'ai trouvé le Parti communiste local, j'ai atteint la rue centrale, qui doit être la rue de Paris, dans mon souvenir.
On reviendra, Emmanuel Todd, si vous voulez bien, sur l'arrivée au Parti communiste. Voilà. Mais avant, je voudrais rester...
Et donc, il y avait des ouvriers à Saint-Germain-en-Laye aussi. Des gens qui étaient chaudronniers chez Renault. Vous voyez, donc c'est pas... c'était pas enfermant comme ça l'est sans doute maintenant.
Je pensais aussi que vous étiez donc, c'est vrai, depuis 51, donc à Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Todd, mais aussi dans un Saint-Germain-en-Laye au début des années 60, en pleine période, comme toute la France... d'américanophilie, vous êtes dans un lycée international avec où la culture américaine intéresse, passionne les Français. Je voulais savoir si vous, qui côtoyez beaucoup d'Américains au lycée de Saint-Germain-en-Laye, vous avez eu cette période de fascination pour l'Amérique ou pas dans votre adolescence.
Non, on n'était pas là-dedans. D'abord, la plupart des étrangers n'étaient pas américains. C'était plutôt moi, donc j'avais les copains de la nationalité la plus fréquente pour moi, ça a été des Hollandais, des Néerlandais. Donc c'est pour ça qu'à 15 ans, avec un copain hollandais et puis un autre copain français, on était faire le tour des Pays-Bas en mobylette. Puis il y avait des Norvégiens, puisque la Norvège est en Europe. Mais il y avait aussi des Suédois, même si la Suède n'était pas dans l'OTAN. Il y avait des Anglaises. Il n'y avait pas d'Anglais, parce que les Anglais étaient dans les public schools. Ils étaient internes. Il y avait quelques Italiens. Et puis, il y avait des Américains. Et il y avait quelques Allemands. Alors, moi, dans mon souvenir, c'est que je pense que ma vocation d'ethnologue ou d'anthropologue est née au contact de toutes ces nationalités. Parce que vraiment, j'ai vu des types qui arrivaient en cinquième et qui, au bout de quelques mois, étaient bilingues. Ça rend assez universaliste d'une certaine façon. Mais j'ai vu que ces Hollandais qui devenaient bilingues, restaient typiquement hollandais, remplis d'une sorte de francophobie démente, alors qu'eux-mêmes étaient devenus déjà à moitié français. Je pense que vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, tout ce qui était européen se mélangeait assez bien, ou même totalement bien. Et les groupes de copains, c'était français, italien, néerlandais. Mais les deux groupes qui étaient quand même un peu décalés, c'était les quelques Allemands qui étaient là, qui étaient un peu raides, dans des styles différents, qui étaient quand même un peu... Mais c'était juste après la guerre, donc peut-être ils étaient embêtés, je sais pas. Et puis les Américains, mais alors les Américains, c'était pas tellement un truc culturel, c'est que... ils étaient mieux nourris depuis longtemps et donc ils faisaient leur puberté plus tôt, ils faisaient une tête de plus que nous, ils étaient dépucelés beaucoup plus tôt aussi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme une autre espèce, quoi. C'était voilà, donc ils étaient très gentils, mais presque physiquement différents pour des raisons nutritionnelles. Mais donc nous, on était dans la réalité de l'Amérique.
Pas de fantasme.
Donc en fait, c'est ça qui est terrible. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on a vraiment les gens sous les yeux, on peut jouer le fantasme, mais juste pas possible. Donc en fait, j'ai aucun message à délivrer sur les Américains. Il y avait des tensions à Saint-Germain-en-Laye parce que il y avait le camp des Loges qui était à côté. Donc il y avait une époque jusqu'à la sortie de l'OTAN. Qui a fait foutre en l'air d'ailleurs le lycée international, et il y avait des GIs. Je me souviens au-dessous, moi j'habitais quand j'étais tout petit, j'ai dû habiter jusqu'à 5-6 ans chez mon arrière-grand-mère, dans l'ancien petit hôtel de Noah, qui est une belle maison rue de Lorraine à Saint-Germain, ancienne, mais l'appartement totalement miteux en fait. Mais au premier ou au deuxième étage, il y avait des putes qui recevaient des GIs en goguette, enfin voilà. Il y avait de l'ambiance, quoi. Ça provoquait un certain anti-américanisme, mais tout à fait spécifique.
Non, mais je cherchais vainement, manifestement, à essayer de trouver des traces d'un anti-américanisme qu'on vous a reproché certainement à tort au moment d'après l'Empire. En tout cas, il n'est pas né à Saint-Germain. Il n'existe pas depuis Saint-Germain-en-Laye.
Ça, c'est des blagues. J'ai toujours dit, au moment de la sortie d'après l'Empire, j'ai toujours dit, mais je ne suis pas anti-américain. Ça me serait impossible, vu que ma famille maternelle était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre, que le père de mon père, juif viennois, est mort citoyen américain et a fait la guerre dans l'armée américaine. Je suis juste énervé, comme n'importe quel démocrate de gauche le serait aux États-Unis. Et maintenant, évidemment, on peut me dire... Quand même, vous sombrez dans un pro-américanisme terrible. C'est bizarre à l'époque de Trump. Le seul anti-américanisme que j'ai peut-être ressenti, c'est l'anti-américanisme de Cambridge, des Anglais.
Ah, nous y reviendrons à Cambridge.
Voilà. Mais c'est tout à fait spécifique et c'est pas du tout le style français.
Mais avant d'arriver à Cambridge, ce qui fera l'objet de notre prochain entretien, Emmanuel Todd, je voulais revenir aussi sur l'exploration des territoires, puisque là on était à Saint-Germain-en-Laye et allusivement vous m'avez dit que vous avez fait un tour d'Europe, vous êtes allé aux Pays-Bas en mobylette, c'était une volonté exploratoire à la rencontre des peuples européens.
Ça a commencé, je crois que c'était en seconde. En seconde, on avait été d'abord en voyage de lycée là, à Munich. J'ai pris ma première cuite à la bière en Allemagne. Donc, vous voyez, je suis pas non plus germanophobe. C'est un bon souvenir. Et puis l'été qui a suivi, avec ce copain, Arthur de Grau, enfin de Grau, et puis bon, pote Christian Ben Simon, on a fait le tour des Pays-Bas. C'est Arthur qui avait tout organisé, lui était bilingue, hein, il l'est toujours d'ailleurs. Et puis ça, donc j'ai vu les Pays-Bas, et puis ensuite le pied était pris. L'année d'après, j'ai fait le tour d'Italie en autostop avec Bernard Guetta. C'est plus qu'un ami d'enfance, nos parents sont amis. Lui nous définit comme frère de lait. Vous voyez comme quoi des milieux très proches peuvent produire des choses très différentes dans le discours sur l'Europe, quand même. Et puis, j'ai fait le tour de. Ça, c'était après le bac. J'ai fait le tour de Scandinavie en mobylette, de nouveau. Je suis allé en Espagne aussi pour faire, comme j'étais snob, je voulais pas aller sur la Costa Brava, donc je me suis payé en autostop toute la côte nord de l'Espagne, ce qui m'a perdu une découverte précoce de l'Auvergne sur mer. Non, j'aimais vraiment.
Je vous ai fait un petit peu digresser sur ces voyages, Emmanuel Todd, parce qu'on a souvent le sentiment, et vous l'avez dit, que vous avez plus exploré à travers les cartes, les livres, que de facto sur le terrain, et pourtant manifestement dans votre...
Non, je suis pas du tout anthropologue de terrain. C'est-à-dire, j'ai énormément d'admiration pour les types qui vont dans un village, qui passent 6 mois, 1 an, 2 ans, qui attrapent tous les parasites du monde, qui se font mordre par des chiens. J'ai une copine d'enfance que j'ai retrouvée à Cambridge, qui a fait ça au Niger. Je suis pas un héros parce qu'en plus il faut garder la tête froide puis revenir avec une thèse. Moi je suis historien de métier, donc moi je me sens bien avec des vieux papiers, avec des livres, mais je dirais que j'ai pas voyagé immensément, mais je dirais que raisonnablement, et que les voyages que j'ai faits m'ont énormément apporté. Mais mes voyages sont un peu décalés par rapport à ceux qu'on fait d'habitude, parce que très très tôt, j'ai été fasciné par les pays plus développés que la France. Donc ça a commencé avec les Pays-Bas, où j'ai vu mon premier four à micro-ondes. Hein ? Quand même, voir son premier four à micro-ondes vers 1900, je ne sais pas, 65-66 quand même, hein, à Amersfoort, je crois. Parce que Arthur avait un oncle restaurateur ou hôtelier, je sais pas. Il nous avait fait chauffer du riz par l'intérieur. J'étais vraiment très impressionné. Puis ensuite, je suis allé en Scandinavie. J'ai toujours été fasciné par la Scandinavie. Et puis par l'Allemagne, que j'ai traversé beaucoup dans tous ces voyages. Et puis ensuite par le Japon. Mais tout ça, c'est des pays qui sont plus développés que la France. Et ça, ça donne un point de vue inhabituel.
Alors, on poursuivra demain, Emmanuel Todd, si vous voulez bien, un autre voyage, celui que vous faites aux alentours de 16 ans. Vous y avez fait allusion il y a quelques instants. C'est votre voyage de quelques années auprès des jeunesses communistes françaises, puisqu'à 16 ans, en dépit d'un grand-père, donc Paul Nizan, qu'on a évoqué, qui avait quitté avec fracas le Parti communiste, d'un père qui s'est souvent défini comme social-démocrate, et ben vous décidez de vous engager à 16 ans auprès des jeunesses communistes, et nous en reparlerons demain. Merci, Emmanuel Todd.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sébastien Petitot avec Emmanuel Todd. À voix nue, prise de son, Éric Audra. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Attaché de production, Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.